Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, nous lirons les versets situés entre les versets 12 et 25. Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël !» Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. » Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien, en effet, parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda, de Galilée. Et ils lui firent cette demande, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » Dans le cantique Louange et prière, nous prendrons maintenant le numéro 115. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prions. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. Et c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Amis, frères et sœurs, le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem marque, pour tous les chrétiens occidentaux du moins, leur entrée dans ce qu'il est convenu d'appeler la Semaine Sainte. Un repère liturgique allant du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Et cette année, nous choisissons de vivre cette semaine particulière avec la lecture de l'Évangile de Jean. Cette entrée de Jésus à Jérusalem, ou la fête des Rameaux, en souvenir des branches coupées aux arbres et agitées par la foule en guise de bienvenue, est un épisode commun aux quatre évangiles. Même si ce sont les récits synoptiques de Matthieu, Marc et Luc qui nous sont sans doute les plus familiers. Et dans les trois premiers évangiles, c'est la première et unique entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Mais dans l'évangile de Jean, il en est autrement, puisque c'est la troisième fois que Jésus vient à Jérusalem. En effet, on trouve Jésus dans cette ville au tout début de l'évangile, dès le chapitre 2, juste après le récit des noces de Cana, avec ce moment mémorable où Jésus chasse les vendeurs du temple, et un peu plus loin, au chapitre 5, lorsque Jésus guérit un paralytique à la piscine de Bethsaida, provoquant là aussi un certain trouble, puisque cette guérison a lieu le jour du sabbat. Ce troisième séjour à Jérusalem, raconté par Jean, témoigne peut-être encore plus que dans les autres évangiles de ce quiproquo, de cette ambiguïté que soulève l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans notre récit, c'est la foule qui prend l'initiative de se précipiter à la rencontre de Jésus. Elle veut lui faire un accueil explicitement royal. Elle va se rendre à sa rencontre de la même façon qu'on accueille un souverain s'approchant d'une ville. Et l'ovation de la foule est symbolisée dans le récit par les palmes qu'elle porte et non des branches arrachées aux arbres sur le parcours. Alors, comme il n'y avait pas vraiment de palmiers à Jérusalem, il est permis de supposer que la foule s'est procuré ses palmes à l'avance pour une autre fête, par exemple celle de Soukhot, ou la fête des tentes ou des tabernacles, palmes qu'elle a certainement conservées pour s'en servir à une autre occasion, et il se trouve que c'est pour accueillir Jésus. Alors le palmier se dit Tamar en hébreu, ou Phoenix en grec, et il occupe une place centrale dans la spiritualité juive. C'est un arbre qualifié de sacré, lié à la notion de justice. L'homme juste est comparé à un palmier dès les premiers versets du psaume 1. Le tronc droit et haut du palmier sert de comparaison pour la croissance du juste selon le psaume 92. Dans le livre des juges, Déborah, la seule femme juge, rendait la justice sous un palmier. Tamar, c'est aussi le nom d'une femme du livre de la Genèse qui, par une ruse assez risquée, il faut le dire, obligea son beau-père à lui rendre publiquement justice tout en préservant sa dignité et sa descendance. Les palmes étaient des motifs de décoration du temple du roi Salomon. Les palmes servaient aussi à accueillir les entrées triomphales des souverains, comme on le trouve dans le livre des Maccabées. Et si la palme reste l'emblème décoratif du triomphe et de la gloire, dans le langage religieux, elle est également le lot des martyrs, comme on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse. Alors ces détails permettent de mieux comprendre le véritable quiproquo qui se joue à cet instant précis. Jésus est accueilli comme un libérateur national, comme le futur roi d'Israël au sens politique du terme. Et la foule est certaine que c'est lui qui va rendre la justice, la vraie, que la multitude attend pour elle-même. Et si elle accueille Jésus comme un libérateur politique, cela va encore plus loin qu'on ne l'imagine. Elle voit en lui un faiseur de miracles qui dépasse son attente, parce que la foule est aveuglée par ce miracle de Lazare qui vient de sortir de son tombeau, tout comme quelque temps auparavant elle a été subjuguée par un autre miracle, celui de la multiplication des pains. Ce moment particulier où la foule voulait déjà enlever Jésus pour le faire roi. Son attente est telle qu'elle ne remarque plus que Jésus avance assis sur un ânon. Elle ne fait plus le lien avec la prophétie de Zacharie que l'évangéliste Jean cite de façon plus simplifiée, mais à la manière des autres évangélistes. Alors pour le moment, le texte nous indique que les disciples ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Mais Jésus est là, qui ne se dérobe plus à la foule comme à l'accoutumée. Quelque chose est en train de changer, mais quoi exactement? Ils comprendront après être passés par une réalité qu'ils ne soupçonnent pas encore. Ce qui motive la foule à accueillir Jésus de cette façon, c'est le signe de Lazare de Béthanie. Mais l'évangéliste Jean a pris soin de faire suivre ce signe par le geste du parfum répandu sur les pieds de Jésus par Marie, la sœur de Lazare, reliant ce geste d'onction à la mort prochaine de Jésus. Et c'est certainement là que se situe le cœur de notre récit. Jésus n'est pas là pour épater la foule, il n'est pas là pour faire du prodigieux. Le quiproquo se situe au niveau de la vie éternelle. La foule espère une vie terrestre qui ne finit jamais à la manière de Lazare, peut-être, alors que Jésus parle d'une vie éternelle liée à un accomplissement de soi. C'est le don de soi qui fait office de vie éternelle. Et ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est concerné, mais bien tout homme, tout le monde le suivra. On ne peut rien faire contre cela, disent les pharisiens. Et cette ouverture est symbolisée dans notre texte par la présence des Grecs qui sont à Jérusalem et qui demandent à voir Jésus. Il représente cette ouverture à l'universel, un élargissement des frontières, tant géographiques que religieuses, rappelant ainsi la totalité de l'oracle prophétique de Zacharie, qui annonçait l'arrivée d'un Messie assis sur un ânon, qui brise les armes de guerre, qui étend sa domination d'une nation à l'autre. Mais de quel Messie sommes-nous en train de parler? Car ce n'est pas assis sur un ânon qu'on étend une domination sur l'ensemble du monde. De quelle manière ce Messie peut-il s'y prendre, si ce n'est par la conversion des cœurs à un amour, à une humilité allant jusqu'au don de soi? C'est alors que l'évangile de Jean prend un nouveau tournant et bascule dans une autre image. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain ne meurt, alors indépendamment du titre d'un livre d'André Gide qui raconte sa biographie, cette image renvoie l'auditeur ou le lecteur que nous sommes à un grand nombre de paraboles dont le thème est classique. L'enfouissement de la graine semée en terre était considéré par les anciens comme une mort, et le surgissement d'une plante nouvelle comme une sorte de résurrection. C'est d'ailleurs cette comparaison que l'apôtre Paul gardera presque mot à mot pour évoquer la résurrection à l'église de Corinthe. Dans les autres évangiles, Jésus utilise cette comparaison du grain de blé à propos du royaume. Mais alors que dans la parabole du semeur, le grain c'est la parole de Dieu. Dans le contexte de l'évangile de Jean, le grain est identifié au Christ lui-même. La Pâque juive est proche, et avec elle la mort de Jésus. Et Jésus traduit le « il faut » de sa passion par la motivation du fruit qu'il va porter. Le grain qui meurt ne reste pas seul, il porte du fruit en abondance. Et cette multiplication promise est la description anticipée de la glorification du Christ, si chère à l'évangéliste Jean. Alors pour nous qui savons comment l'histoire se termine, puis se continue, nous comprenons que Jésus évoque par ses mots sa propre mort. Et c'est une façon de dire que sa mort sera féconde. Mais comment une mort peut-elle être féconde? En recherchant le sens de la vie qu'elle donne ou donnera le moment venu à celles et ceux qui n'en resteront pas là et qui feront la démarche de comprendre ce geste, je dirais même indépendamment de la résurrection. Et sa vie qu'il donne pour le monde, pour la multitude et non aux membres d'un club privilégié, se fait par le passage irréductible de sa mort qui fait aussi surgir la vie pour d'autres, à commencer par un certain centurion qui reconnaîtra en cet homme qui meurt sur la croix le Fils de Dieu. En Christ, donnant sa vie pour que les hommes la reçoivent en abondance, Dieu révèle d'une manière inattendue sa présence au monde. Il ouvre le cœur des hommes à un trésor unique, celui de l'amour sans condition. Et c'est alors que chacun peut comprendre la portée des paroles et des gestes de Jésus pendant son ministère terrestre, quand il guérissait, quand il rassasiait les affamés, qu'il donnait à boire à celles qui avaient soif, ou qu'il relevait encore celles qui attendaient d'être lapidées, ou quand vers l'ultime fin, il bénira celui qui le maudira, quand il pardonnera à celui qui l'insultera et même le mettront à mort. Jésus a fondé sur l'amour une société nouvelle, juste pour permettre aux hommes que leur vie soit durable et qu'elle porte du fruit. Nous sommes toujours au bénéfice de ce don qui appelle à un autre don. Au jour des rameaux d'autrefois, la foule attendait de suivre un Messie en croyant qu'il allait tout révolutionner pour leur propre profit et qu'il satisferait leur petit monde à eux. Mais lui venait annoncer un royaume qui n'était pas de ce monde, mais qui pourtant pourrait s'étendre aux dimensions de ce monde, pour peu qu'on lui abandonne en toute confiance notre propre personne. Jésus parlait et parle encore d'une vie authentique qui suppose un renoncement, oui, un renoncement à un égoïsme, un renoncement à un orgueil, à un esprit de domination, un renoncement aux préjugés. Selon la formule que j'affectionne tout particulièrement, tu seras aimé le jour où tu pourras dire ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Suivre le Christ, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins, c'est abandonner quelque chose de soi-même pour accueillir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est non seulement la personne du Christ Jésus, mais c'est aussi la personne que je deviens jour après jour quand je découvre qui je suis dans le sens du verbe être. C'est donc moi-même, ou chacun d'entre nous, rencontré, transformé, renouvelé par sa présence, son amour, sa grâce et son pardon. C'est moi-même ou chacun d'entre nous dans la lumière d'une relation nouvelle avec lui, avec les autres. C'est moi que je découvre, essayant à mon tour d'ouvrir le chemin de celles et ceux que je rencontre. C'est chacun d'entre nous devenant à notre tour un homme ou une femme de terrain, engagé, travaillant sans relâche à l'annonce de l'Évangile, là où d'autres sont en attente d'une parole qui libère, là où d'autres sont en souffrance, en esclavage de toutes sortes, en solitude de tout genre, là où d'autres attendent un geste, une parole qui relève, qui soulage, ou un regard qui les rende à la vie. Parce que, comme l'écrivait Albert Schweitzer, à certains moments de notre vie, notre propre lumière s'éteint et se rallume par l'étincelle d'une autre personne. Chacun de nous a des raisons d'éprouver une profonde gratitude pour ceux qui ont rallumé la flamme en nous. Amen.